Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Nous consacrons notre émission d'aujourd'hui à un grand compositeur français, Gabriel Fauré, et nous n'avons pas été jusqu'à présent avares de vous présenter d'autres grands compositeurs français. Je crois les citer tous, mais peut-être en ai-je oublié, Ravel, César Franck, Messager, Saint-Saëns, Massenet, Reynaldo Hahn. Et Fauré s'inscrit dans ce courant musical français brillantissime. Et il a eu comme le plus illustre de ses élèves, Ravel, et puis comme très très grand ami, l'ami de toute une vie, Saint-Saëns, et puis Massenet, à qui il succédera, et Bruno vous en parlera dans différents postes. Debussy aussi, nous l'avons envisagé. Un peu de référence bibliographique, si vous voulez vraiment approcher de très près toute la vie musicale du 19e siècle en France. Il y a un magnifique livre qui est sorti il y a quelques mois de Jean-Christophe Branger sur Massenet, Jules Massenet, ce qui permet de suivre non seulement l'œuvre de Massenet de très près, pour ceux qui adorent ce musicien dont nous faisons partie, mais également de prendre connaissance de tout le contexte musical, artistique du Paris du 19e siècle. Et c'est un livre absolument magnifique qui brosse toute cette période particulièrement féconde. Et autre référence, le Diapason, le numéro de la revue musicale Diapason de septembre 2024. Nous ne l'avons pas fait exprès, mais nous tombons ensemble sur le même thème, a titré sur Gabriel Fauré, le génie du clair-obscur, à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort. Fauré aura d'illustres élèves, je l'ai dit, Ravel le plus connu, mais il aura aussi Georges Enesco, Nadia Boulanger, Charles Cochelin, qui sera très proche de lui, Florent Schmitt, enfin, voilà. C'est que Fauré, dans son style particulièrement original, va rester lui-même, ne va pas sombrer dans quelques modes. Il connaîtra Wagner, Liszt, il appréciera Wagner, mais sans faire du Wagner, ce qui devenait un petit peu la mode à l'époque, en tout cas un objet de dispute. Et donc, Fauré va suivre son chemin très original, très mélodique, très mélodieux. Et nous allons écouter, pour nous en convaincre déjà, l'opus 1, donc sa première œuvre, qui s'intitule « Le papillon et la fleur », c'est du chant avec un accompagnement de piano.
Puis tu reviens, puis tu reviens. Les difficultés de la sélection des œuvres à vous présenter vont faire que, bien que Fauré soit connu, reconnu et étudié comme un des grands mélodistes français, nous avons commencé par une mélodie, sa première œuvre, et nous n'en écouterons pas d'autres, malheureusement, mais nous écouterons d'autres œuvres. Et nous allons continuer par une œuvre de jeunesse, donc celle que nous venons d'entendre étant son opus 1, c'est vraiment une œuvre de jeunesse, mais la seconde aussi, et la seconde est le fruit de ses études dont Paul parlera à l'école Niedermeyer, école centrée sur la musique religieuse, et qui va faire que Fauré va produire à l'issue de son parcours à l'école un cantique religieux, cantique dit de Jean Racine. En l'occurrence, c'est un poème religieux de Racine, le dramaturge, qui a été réécrit par son fils Jean Racine. Très curieusement, malgré sa formation dont Paul vous parlera, Fauré n'écrira que très peu d'œuvres religieuses. Il a écrit ce cantique que nous allons écouter, puis plus tard dans l'émission, un extrait du Requiem pour lequel il est très connu. Requiem qu'il a écrit d'ailleurs pour le plaisir d'écrire une œuvre musicale plus que pour écrire une œuvre religieuse. Et deuxième paradoxe, alors que dans cette école, l'orgue était très important et que tout au long de sa vie, en particulier au début, il a été organiste. Il a été organiste à l'église Saint-Sauveur de Rennes, à l'église Saint-Sulpice de Paris, à l'église de la Madeleine. Eh bien, il n'a écrit aucune œuvre pour orgue. Il faut croire que cet instrument, dont il pratiquait beaucoup, ne correspondait pas, et d'ailleurs nous le comprendrons le long de l'émission, ne correspondait pas à son sens musical, à ce qu'il souhaitait exprimer. Écoutons donc cette œuvre néanmoins très belle, même si elle est paradoxale dans son œuvre, le cantique de Jean Racine, initialement pour orgue et chœur, mais là dans une transcription pour orchestre et chœur. Thank you.
Gabriel Fauré, né le 12 mai 1845 à Pamiers, au pied des Pyrénées, et ses dons naturels pour la musique et précoces font que ses parents vont l'envoyer à Paris pour qu'il suive les cours de la célèbre école Niedermayer, créée par M. Niedermayer, un Suisse. École dont le but est de former ses élèves vraiment au classicisme, à la musique religieuse, et d'en faire des organistes prestigieux d'église, des chefs de chœur, des maîtres de chapelle, dans l'esprit des compositeurs anciens, dont entre autres Palestrina. Donc retrouver un classicisme très ancien. C'est toute la formation de Gabriel Fauré qui va rester à l'école Niedermayer pendant 11 ans. C'est dire de 9 ans à 20 ans, grosso modo. Il en sortira avec un premier prix de piano, il en sortira avec un premier prix de composition également, un deuxième prix d'harmonie. Et j'en reparlerai un petit peu, bien sûr, il aura une grande carrière d'organiste, Bruno l'a dit. Il sera un très grand organiste sans composer pour l'orgue, c'est un des paradoxes de ce compositeur. Écoutons, passons maintenant à sa musique de chambre, toujours, vous le verrez, extrêmement mélodieuse. Elle se développe presque naturellement, ça a l'air très très simple, et en fait c'est une composition qui est très compliquée. Sonate pour piano et violon numéro 1, un extrait de son premier mouvement. Thank you.
philosophe Yankelevitch a écrit sur Forêt, il a écrit sur la musique, notamment sur Liszt, sur Ravel, mais beaucoup sur Forêt. Et il exprimait que Forêt l'a aidé à découvrir la musique, mais beaucoup plus curieusement, la philosophie. Pourquoi disait-il cela ? Eh bien, quelque part, Forêt s'intéresse davantage à l'idée musicale que à toute l'expression de l'orchestration. Dans beaucoup d'œuvres, il utilise vraiment à l'économie les instruments. Il n'y a pas de musique de chambre avec des vents et des bois. Donc vraiment, c'est l'idée musicale. Donc l'idée musicale peut faire comprendre que Yankelevitch ait été ouvert à la philosophie par Gabriel Fauré. Gabriel Fauré qui était extrêmement cultivé. Et je vais citer un livre d'Alfred Cortot, dont nous parlerons d'ailleurs plus tard, qui cite des paroles de Fauré lui-même, qui dit « Dans quel ordre d'idées que l'on se place, lettres, sciences, arts, une éducation qui ne serait pas basée sur l'étude des classiques ne saurait être ni complète ni forte. Tous ceux qui, dans l'immense domaine de l'esprit humain, ont semblé apporter des pensées et un langage jusqu'alors inconnu, n'ont fait d'ailleurs que traduire à travers leur sensibilité personnelle ce que d'autres avaient déjà pensé et dit avant eux. » C'est donc tout à fait dire qu'il ne cherchait pas à être un novateur, il était empreint des classiques, toutefois il a eu son style complètement à lui, d'ailleurs difficile, disons-le, cette émission présente un des compositeurs peut-être les plus difficiles que nous avons présentés, parce que sa musique est totalement pure et il y a très peu d'effets, voire aucun. D'ailleurs, Fauré disait aussi que la discipline scolastique ne contraint en rien l'expression. Et il ne comprenait pas en quoi elle peut faire obstacle à la manifestation d'impressions, ni comment il peut s'en dégager de l'émotion. Donc, nous avons là un compositeur qui cherche l'idée musicale, qui cherche à exprimer le beau, sans aucun tapage, sans vouloir être un révolutionnaire. Nous allons, à cet effet, écouter une œuvre pour piano, le Nocturne numéro 6, qui est probablement le plus beau, et là je me réfère encore à Cortot, qui considérait que c'était le plus beau, et qui vraiment est d'une construction harmonique magistrale et extrêmement émouvant. Thank you.
revenons quelques instants à la carrière d'organiste prestigieux de Gabriel Fauré, qui effectivement ne composera pas pour orgue, mais sera, à l'instar sans doute de son collègue César Franck, un immense organiste. Il tiendra notamment deux grands orgues de parisiens, à l'église de la Madeleine, où il succède à Massenet, et également l'orgue de Saint-Sulpice, où il va remplacer puis succéder à Saint-Saëns. C'est un organiste magnifique qui, en plus de jouer de l'orgue, va restaurer tout un programme de musique des offices qu'il imposera à la Madeleine, et l'église de la Madeleine à laquelle il destinera son requiem. Il faut parler bien sûr de ce requiem composé en 1887. C'est une œuvre d'une douceur extrême. C'est, je dirais, l'antithèse de Berlioz. Gabriel Fauré détestait les effets théâtraux, romantiques, les excès, les immenses orchestres, les cuivres tonitruants, et il détestait pour cela, on peut le comprendre, le requiem de Berlioz. Bon. Œuvre magnifique en sept mouvements. L'idée principale, c'est la confiance dans le repos éternel. C'est une œuvre apaisée. Ça n'est pas une œuvre où surgit la peur, la terreur devant la mort et ce qui peut éventuellement s'en suivre. C'est une œuvre absolument superbe, qui est jouée dans le monde entier, qui est sans doute presque autant connue, peut-être pas tout à fait, mais sans doute pas mal, que le Requiem de Mozart. Tout le monde aime cette œuvre. Elle est absolument magnifique, apaisée. Et nous allons en écouter deux extraits, l'introit, donc le début de l'œuvre, et le Kyrie. C'est une œuvre qui d'ailleurs ne comporte pas de dies irae, à l'instar de certains compositeurs anciens. Et elle termine, nous ne pourrons pas l'écouter, mais il faut l'écouter de votre côté par cette poésie magnifique d'In Paradisium, chef-d'œuvre composé, Bruno l'a dit, pour rien, pour le plaisir et pour notre plaisir. Thank you.
En 1905, Gabriel Fauré est nommé directeur du Conservatoire de Paris. Il a apporté des changements considérables au Conservatoire qui, peut-être à cette époque, s'endormait un petit peu, était dans la routine. Il a voulu vraiment élargir le spectre du Conservatoire. Cela s'est traduit par des cours de lied qui n'existaient pas. Il a fortement encouragé la musique de chambre. Il a élargi le répertoire aux œuvres anciennes du XVIe et du XVIIe. Mais surtout, peut-être, il a introduit les compositeurs contemporains. Il a obligé les élèves d'harmonie et de composition à suivre les cours d'histoire de la musique. On peut d'ailleurs faire référence aux propos que je citais qu'il avait tenus sur l'importance de la culture. Et puis donc, il ouvre les jurys des concours aux personnalités telles que Debussy, Ravel, Ducas, Messager. Il institue des classes de direction d'orchestre et puis de contrepoint. Il a aussi renouvelé considérablement les enseignants, faisant appel à des personnalités qui, aujourd'hui, dans l'histoire de la musique, sont majeures. Je pense notamment à Marcel Dupré et Charles Tournemire pour l'orgue, et à Alfred Cortot et Marguerite Long pour le piano. Donc vraiment, son empreinte est considérable et il a marqué vraiment un élargissement et une compétence totale au Conservatoire de Paris. Sans transition, je dirais, je vais maintenant vous présenter une œuvre très populaire de Fauré qu'il avait écrite beaucoup plus tôt, l'Élégie. Élégie qui devait être une petite pièce, qui devait être, pardon, un mouvement d'un trio ou d'une sonate pour piano et violon, et qui finalement est devenue une œuvre à part entière, que par exemple le grand chef d'orchestre Colonne a souhaité qu'il aménage cette œuvre pour violoncelle, initialement pour violoncelle et piano, qu'il l'aménage pour violoncelle et orchestre, et c'est devenu un des morceaux du hit parade mondial. Donc écoutons cette élégie jouée par le très grand violoncelliste Paul Tortelier.
Thank you.
Quelle œuvre magnifique. C'est tout foré de l'intensité, mais dans l'intimité. C'est bien le génie comme titre du magazine Diapason du clair-obscur. Une activité débordante. Nous avons vu tous ces postes d'organiste, son poste très important au conservatoire, et puis dans d'autres instituts, l'Institut de France, la Société nationale de musique, enfin, critique au Figaro pendant presque 20 ans. Fauré va malheureusement être atteint d'une surdité presque totale à partir de 1903, donc assez tôt. Il entend les sons graves à peu près, mais pas les sons aigus. Et il va laisser néanmoins 250 opus, 250 œuvres, dont nous avons essayé de balayer, j'allais dire, l'originalité et la beauté en si peu de temps. Fauré décède d'une pneumonie le 4 novembre 1924, et il est enterré au cimetière de Passy. Il laisse derrière lui une œuvre considérable, non seulement dans ses compositions, mais dans son sens de l'organisation, dans tout ce qu'il a laissé pour que la musique perdure au plus haut niveau, en France notamment, non sans avoir d'ailleurs parcouru beaucoup l'Europe. Nous allons écouter un extrait de son Quatuor avec piano numéro 1, une œuvre enlevée, mais jamais violente, toujours mélodieuse. Thank you.
Nous terminerons par une œuvre nommée Dolly. Un petit clin d'œil, car c'est peut-être la seule œuvre que l'on puisse qualifier de légère de Fauré. Et j'aime assez ce mot léger, qui me fait penser à un très grand animateur de France Musique qui vient de décéder, Benoît Dutertre, qui était spécialisé dans la musique dite légère, les opérettes, les comédies musicales. Et qui un jour questionnait un grand musicien austère, et en lui demandant est-ce qu'il aimait la musique légère. Et c'est Manuel Rosenthal de lui répondre « Pourquoi, vous connaissez de la musique lourde ?» Donc, mettons tout sur un pied d'égalité.
Oui.
Seule la qualité, seul le talent, voire le génie, viennent faire la différence. En l'occurrence, cette œuvre est beaucoup jouée par les jeunes pianistes. C'est une œuvre à quatre mains. Mais souvenons-nous qu'elle a été créée ni plus ni moins que par Alfred Cortot à la Société des Concerts. Donc c'est une très belle œuvre. Elle a surtout l'intérêt, comme elle est peut-être moins difficile que d'autres que nous avons écoutées, de voir l'immensité de la richesse harmonique dans une œuvre plus délicate et plus facile à écouter. Écoutons Dolly, deux extraits de Dolly.
Thank you.
Nous avons écouté au cours de cette émission Le Papillon et la Fleur, première œuvre, une mélodie, première œuvre de Gabriel Fauré par Véronique Jans et Roger Vignol, puis le Cantique de Jean Racine qui a été joué par l'ensemble, par l'Orchestre National de France sous la direction de Laurence Equilbet. Un extrait du premier mouvement de la première sonate pour piano et violon par Isaac Perlman et Emmanuel Axe. Puis Michel D'Arberto a joué le Nocturne numéro 6. Ensuite, l'Introit et Kyrie du Requiem, toujours par Laurence Equilbet, mais avec son ensemble Accentus. Ensuite, l'Élégie, violoncelle et orchestre par Paul Tortelier, l'orchestre étant dirigé par Michel Plasson. Le Quatuor, premier mouvement par Nelson Gerner, Dashmin Kashimoto, Lawrence Power et Antonio Lizzi. Et enfin, Dolly à quatre mains par Luca et Arthur Jensen. Notre prochaine émission, eh bien, c'est la rentrée. Nous n'y avons pas réfléchi, donc nous allons maintenant y réfléchir et vous la proposer bientôt. Passez un bon mois de septembre.
Au revoir.